précédent passage au séminaire du Christ l'année dernière, j'ai tenté de faire une micro-lecture de l'album The Clown de Charles Mingus. Dans cette conférence qui était mon premier essai à une sociocritique de la musique, je tentais surtout de prouver qu'il était possible qu'il était possible de lire et d'analyser un texte musical de façon similaire à ce qu'on fait avec un texte écrit. Cette année, pour cette session sur l'anarchisme en musique, j'ai décidé de prendre pour acquis que c'était possible et je passerai donc moins de temps sur des considérations de sémiologie musicale pour tenter d'appliquer une approche sociocritique à un corpus beaucoup plus large. Ce corpus tel qu'indiqué, ce sera l'œuvre du Liberation Music Orchestra, donc un ensemble de jazz dirigé par Charlie Hayden. Hayden, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, est un contrebassiste ayant débuté sa carrière musicale de façon assez fulgurante avec le Ornette Coleman Quartet en 1959. Le scandale de l'arrivée à New York de ce quatuor, causé par sa nouvelle façon d'envisager l'improvisation musicale, lança pratiquement le courant du free jazz, ou enfin catalysa sur ce courant naissant tous les regards, puisqu'on croyait que ça allait être possiblement l'avenir du jazz ou son futur. Hayden est toujours actif aujourd'hui et peut compter derrière lui près d'une quarantaine d'albums sous son nom, ainsi que d'innombrables collaborations avec des artistes tels que Pat Metheny, Keith Jarrett, Dizzy Gillespie, Ringo Starr et Beck. Le projet d'Hayden qui m'intéresse, son Liberation Music Orchestra, que j'appellerai LMO à partir de maintenant, est né en 1969 avec un premier album éponyme et a refait surface sporadiquement avec maintenant 5 albums à son actif, le dernier datant de 2005. Ce qui m'intéresse chez l'LMO, c'est sa vocation politique, comme l'explique Hayden lui-même dans les notes du premier album. The music in this album is dedicated to creating a better world. A world without war and killing, without poverty and exploitation. A world where men of all governments realize the vital importance of life and strive to protect rather than to destroy it. We hope to see a new society of enlightenment and wisdom, where creative thought becomes the most dominant force in all people's lives. Comment maintenant convertir ces idées en musique? En fait, le concept originel de l'ensemble, tel qu'exemplifié sur son premier album, est de jumeler l'énergie et le côté revendicateur du free jazz avec des mélodies provenant de chansons protestataires à saveur internationaliste. Au fil des ans, le groupe s'est plus ou moins éloigné de ce point de départ et c'est justement ces transformations dans l'esthétique du groupe qui m'intéressent. Selon moi, celles-ci vont de pair avec la signification changeante du free jazz en rapport à sa position de plus en plus périphérique par rapport au jazz mainstream. Mais dans un premier temps, je voudrais me pencher sur cette hybridité du projet originel du LMO avec sa juxtaposition de matériaux musicaux de provenance variée, cette combinaison de deux musiques de révolte, soit les chants révolutionnaires et le free jazz, afin de démontrer comment se complètent, s'opposent et se transforment ces matériaux. Dans un second temps, je mettrai ces conclusions en perspective par une analyse des transformations de la musique du groupe en me basant sur leurs 5 albums officiels et sur un enregistrement d'un concert enregistré au Festival de jazz de Montréal en 1989. Cette seconde analyse me permettra de relier le free jazz au processus de canonisation du jazz et à ça ou ses significations sociales, donnant ainsi un sens au titre de ma présentation. En bref, je ne vais pas m'épuiser à vous expliquer, à vous exposer une analyse minutieuse de toute la production musicale du LMO. Donc, je vais analyser le premier album. J'espère j'arriverai à dégager une esthétique, différents éléments d'une esthétique qu'on pourra suivre à travers les albums subséquents. Donc, ce premier album, on peut voir la photo de pochette ici. Et donc, comme on l'a dit, constitué d'un mélange de matériaux musicaux provenant de chants traditionnels, de compositions originales et d'improvisations libres. Si on regarde la liste des pièces de l'album, brièvement, donc, The Introduction, The Ending of the First Side et The Interlude, Drinking Music, sont des compositions de Carl Ablé, à qui on doit aussi les arrangements sur l'album. Song of the United Front est une pièce antifasciste issue de la collaboration entre Bertolt Brecht et Hans Eisler. El Quinto Regimiento, pardonnez mon accent espagnol, Los Cuadros Generales et Viva la Quince Brigada sont tous des chants traditionnels faisant référence à la guerre civile espagnole. L'hymne We Shall Overcome se passe d'introduction, je crois. War Orphans est une composition de Ornette Coleman, qui ne fait pas partie du groupe, soit dit en passant. Et finalement, Song for Che et Circus 6869 sont des compositions de Hayden. Je vais sûrement prononcer le nom de Charlie Hayden comme étant Hayden éventuellement dans la présentation. Je ne fais pas référence au maître de la première école viennoise. Donc la première pièce de Hayden, Song for Che, fait référence à la révolution cubaine et à Che Guevara évidemment. Puis la seconde, Circus, fait référence à un événement qui eut lieu lors de la convention nationale du Parti démocrate de 1968. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc les trois courtes pièces de Carl Laveley ont une fonction structurelle évidente et on y reconnaît la palette sonore des autres arrangements. Donc c'est constitué d'orchestration chargée, une improvisation collective qui reste très proche de la mélodie, des rythmes de marche, etc. On peut écouter tout de suite la deuxième partie de The Introduction qui s'enchaîne avec Song of the United Front. Le thème, la mélodie de Song of the United Front est répétée au cuivre. Donc on voit bien comment les deux pièces se fondent l'une dans l'autre. Puis si j'avais laissé jouer l'extrait, on aurait pu entendre les cuivres jouer le thème. Puis il y a vraiment un sentiment d'unité entre les pièces de Carl Laveley et les pièces d'origine plus je ne m'attardais pas trop sur ces trois pièces, bien qu'elles soient originales et merveilleusement bien écrites, sinon pour dire qu'elles participent à donner un sentiment d'unité à l'album, unité qui, à mon avis, représente adéquatement l'objectif du LMO ainsi que l'idéologie anarchiste révolutionnaire. Cette unité de l'album provient entre autres du matériau musical même. Les quatre chants traditionnels, incluant la pièce de Brecht, partagent plusieurs caractéristiques structurelles, donc leurs mélodies sont symétriques, ont un registre extrême. Une pulsation assez marquée, une harmonie simple, non modulante. Puis cette qualité mnémotechnique conduit seulement les chants traditionnels, peu importe leur provenance, ce qui a fait en sorte que je n'ai que ces mélodies en tête depuis un mois. Donc, contrebalançant cette homogénéité, on retrouve sur l'album de très longs passages improvisés dans le medley de chants traditionnels. Ce que j'appelle le medley ou le triptyque, c'est la piste numéro 3 là, avec les trois thèmes pendant la guerre civile. Donc, ces chants traditionnels servent uniquement de pivot ou de point de ralliement après l'improvisation solo ou collective. Finalement, dans le cas de la pièce numéro 3, ne représente que 5 minutes sur les 20 ou 22 minutes du morceau. Les pièces Song for Che, War Orphans et Circus 6869 sont presque entièrement improvisées, mais contiennent tous certains éléments faisant référence aux mélodies traditionnelles. Par exemple, le thème de Song for Che a un caractère similaire aux mélodies folkloriques qu'on peut entendre ailleurs sur l'album. Puis on peut entendre l'hymne We Shall Overcome à l'intérieur même de Circus 6869. Je vais vous faire jouer la mélodie de Song for Che. Ça sent bien. En fait, ça c'est Circus, puis on peut entendre des choses comme ça à l'intérieur. Donc, quand je parlais de l'unité de l'album, avant d'entendre le thème, c'est à peu près impossible de dire si l'extrait provient de quelle piste. Donc, le thème de Song for Che, le voici. Thank you. moi, j'aimerais vous faire jouer quelques passages du triptyque pour montrer comment sont jumelés l'improvisation et les mélodies. Ça, c'est la mélodie de Quinto et Gimento. Le soliste part de la mélodie puis s'en éloigne de plus en plus jusqu'à une improvisation totalement collective et complètement libérée de la mélodie. Je vais vous faire jouer la Viva la Quince Brigada, qui est donc la toute fin du triptyque. Vous avez une certaine image sonore de ce à quoi ressemble ce premier album du LMO. Je crois que pour la prochaine séance, je donnerai un devoir à tout le monde d'écouter l'album avant de venir, ça serait plus simple. Tout le monde pourra acquérir en littérature que les textes vont avoir été lus.
Ce n'est pas le cas non plus.
Non, ce n'est pas le cas non plus. Une belle naïveté. Donc, j'aimerais me pencher plus sur la signification sociale de l'album en tant que trace de cette époque de contestation et de lutte sociale. Est-ce que j'ai mentionné que ça datait de 1969? Je vais le mettre en contexte. Donc, comment cette musique représente-t-elle cette vocation politique évidente exposée jusque dans le nom même du groupe? Tout d'abord, il existe tout un discours sur le free jazz, sur cette musique de révolte, de colère, anarchique bien sûr, mais dans le sens le plus restreint du terme, soit le refus de toute règle. Le free est considéré bien évidemment comme une musique libre, sans contrainte, rejetant tout, tant la tradition du jazz et l'industrie de la musique que l'éditeur même, et la mélodie, l'harmonie fonctionnelle, la pulsation, etc. Mais outre ce discours qui n'est pas entièrement faux, mais qui demeure somme toute assez superficiel, comment le flux parvient-il à générer une signification musicale? Avant de répondre à cette question, posons-nous d'abord l'autre question toute bête, qu'est-ce que le free jazz? Ce qu'on entend habituellement par free jazz, c'est une musique où l'improvisation prend le dessus sur la composition préétablie. Ce rejet de la composition, qui est habituellement le point de départ de l'improvisation en jazz plus traditionnel, force l'improvisateur à transformer son approche de l'improvisation, puisque ni lui ou elle, ni le public, n'ont loisir de se repérer dans la forme, l'harmonie, ou en référence à une mélodie qui serait entendue avant l'improvisation, puisque il n'y a pas de mélodie avant l'improvisation. Cette prise de contrôle de l'improvisateur par rapport au compositeur ouvre la porte à une multitude de nouvelles approches de la pratique de l'improvisation qui se dégagent donc des carcans imposés par la tradition, comme l'apprentissage répétitif de motifs mélodiques ou de gammes. Plus important encore, cette émancipation permet aux musiciens d'explorer davantage du côté de l'improvisation libre, ce qui transforma radicalement la hiérarchie habituelle au sein de l'ensemble de jazz, donc l'opposition entre musiciens solistes et sections rythmiques. Donc ça se dissout, tout comme le rôle habituel des instruments. Un saxophoniste pourra bien jouer un accompagnement. Donc au niveau symbolique ainsi qu'au niveau du discours sur la musique, le fruit représente d'une certaine manière l'apogée d'une vision communautaire de la musique, en tout cas au sein de la tradition afro-américaine. Celle-ci est renforcée par l'idée qu'avec une musique complètement improvisée, il est beaucoup plus facile pour un ou des musiciens de s'adapter à son environnement de jeu et donc à son public, rendant encore plus direct le lien entre musique et public. Parce que si à l'origine le free jazz fit bondir l'establishment, il réussit tout de même à se créer une niche dévouée au sein des amateurs de jazz, qui perdent encore de nos jours avec ce que l'on appelle la musique improvisée, qui est un terme utilisé actuellement plus... La musique improvisée, c'est plus large que le free jazz, qui lui regroupait vraiment quelque chose qui venait directement du jazz. Mais maintenant, la musique improvisée, ça englobe aussi des pratiques qui viennent plutôt de la musique classique européenne, ou en fait de la musique contemporaine, puis... qui est peut-être plus éclaté que ce que vous laissez le free jazz dans les années 60-70, disons. Donc, c'est ça, le free jazz avait quand même réussi à se créer une niche d'amateurs qui avait un public. Mais son absence de valeur commerciale ne l'empêche pas de rejoindre un public, même bien que celui-ci soit fort restreint comparativement à d'autres genres musicaux. Puis c'est là le paradoxe du free, à mon avis, c'est que, en fait, il réside dans le fait que tout ce que le free représente comme concept anti-hiérarchique, égalitaire, communautaire, toute sa vocation sociale est bien souvent exprimée sous une forme esthétique très difficile d'approche. Bon, je vais faire une petite parenthèse ici. Bien sûr, le free se bat dans nos oreilles contre une musique populaire fort depuis longtemps normalisée et normalisante, de sorte que notre oreille est habituée à comprendre ou à saisir la musique sans faire aucun effort. Ce conditionnement, partiellement involontaire, joue en défaveur du flux des musiques plus complexes qui demandent une écoute différente, donc forcément. Mais outre ces raisons dues au contexte social, le flux pris en lui-même défie aussi volontairement toutes les lois de la gestalt ou de la psychoacoustique par sa complexité, disons entre autres, à l'absence de récurrence et de construction préalablement établie. De sorte que l'écoute de cette musique nécessite une réorganisation complète des processus auditifs. Bon, ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas seulement parce que le free est plus compliqué que ce qu'on entend habituellement et qu'on est conditionné à écouter à la radio puis partout, mais que intrinsèquement, c'est une musique qui est difficile à approcher. Donc, le paradoxe, c'est donc que l'idéologie du free est d'une certaine manière contredite par son esthétique. Sa signification musicale vient en partie de son rejet de la société de consommation, un rejet qui est fort réciproque d'ailleurs. En art, l'émancipation face aux règles établies a toujours été un geste à valeur politique. Mais dans le cas du free, beaucoup ont pensé que le genre allait trop loin dans son rejet des normes, puisqu'apparemment, cette musique s'alignait à une majorité du public habituel de jazz. Dans le contexte de la fin des années 50 et du début des années 60, au moment donc où le free jazz prenait de l'ampleur, le marché du jazz était déjà gravement amputé par l'explosion de nouveaux genres musicaux comme le rock, le soul, le motown, etc. Le free fut donc décrié comme faisant fuir les derniers fans de jazz. Il fut décrit comme étant une musique intellectuelle, quelque chose de très péjoratif dans le contexte. Et bref, comme n'étant tout simplement plus du jazz, comme reniant complètement la tradition musicale afro-américaine. Tout cela malgré que dans les faits, la très grande majorité des musiciens de free jazz de la génération de Eden ont un immense respect pour leurs prédécesseurs et se perçoivent comme étant en lien direct avec la tradition du jazz. Et lorsqu'on y regarde de plus près, concrètement, le fruit des années 60 partage beaucoup d'éléments provenant du jazz à la décennie précédente. L'improvisation y a une place très importante, évidemment. L'instrumentation est souvent similaire. La manière de jouer, le swing est souvent perceptible aussi. Puis, au niveau idéologique, donc, le fruit se veut en partie un retour aux sources du jazz, un retour à l'improvisation, à une musique collective, loin de l'élitisme toujours croissant qui découle de la légitimité et de l'institutionnalisation grandissante du jazz mainstream. Je reviendrai plus tard sur les développements de cette bataille idéologique que les autres albums du LMO mettent en perspective. Pour résoudre ce paradoxe entre idéologie populiste et absence de popularité, plusieurs musiciens de free ont combiné leurs approches de l'improvisation à des thèmes de musique traditionnelle, renforçant ainsi l'association entre musique populaire et free jazz. Outre le LMO, je pense particulièrement au saxophoniste Albert Taylor, dont les improvisations sont truffées de références ou de citations de mélodies populaires, une célèbre version de la Marseillaise, par exemple. Mais je pense surtout à John Coltrane et à sa célèbre version de My Favorite Things. Dans cette pièce, comme dans le triptyque de chants traditionnels du LMO construit sur les chants de la guerre civile espagnole, les improvisations prennent un sens de par le fait qu'elles se basent sur les mélodies populaires. Dans le cas de My Favorite Things de Coltrane, c'est une déconstruction de ce symbole immense de la culture blanche américaine. On se souvient des paroles Girls in White Dresses, Snowflakes on Eyelashes, Silver White Winters, Cream Colored Ponies. La référence est assez claire, pour ne pas dire assez blanche. Puis My Favorite Things, c'est Hollywood, c'est l'industrie de la musique, c'est tout ce qu'elle représente d'hégémonique. Le cas du triptyque du LMO est très loin de l'ironie coltranienne ou de la parodie cynique de Jimi Hendrix avec sa version de Star Spangled Banner. Le LMO s'associe vraiment à ses hymnes de révolte, le texte de la pochette ainsi que le nom du groupe, l'image de la couverture sont assez clairs là-dessus. Donc le LMO construit à partir de ces mélodies. Le thème de My Favorite Thing sert de prétexte à l'improvisation, tandis que les chants traditionnels du LMO servent de fondation à l'élaboration de l'album entier. J'ai déjà mentionné à propos de l'unité de l'album. Les trois compositions de Carl Ablé ont tous certains éléments provenant des mélodies traditionnelles, tout comme la mélodie de Song Forche et de Circus 6869. Cette dernière pièce, Circus, possède aussi des caractéristiques méritant d'être discutées plus en détail. Les notes de l'album nous apprennent qu'elle est un appui indirect, au mouvement contre la guerre au Vietnam. C'est en fait une représentation auditive d'un événement qui eut lieu en 1968 lors de la Convention nationale du Parti démocrate, et Hayden décrit son inspiration pour la pièce en ces termes. The idea for Circus came to me one night while watching the Democratic National Convention on television in the summer of 68. After the minority plank on Vietnam was defeated in a vote taken on the convention floor, the California and New York delegations spontaneously began to sing We Shall Overcome in protest. Unable to gain control of the floor, the rostrum instructed the convention orchestra to drown out the singing. Your grand old flag and happy days are here again could then be heard trying to stifle We Shall Overcome. To me, this told the story in music of what was happening in our country politically. Thus, in Circus, we divided the orchestra into two separate bands in an attempt to recreate what happened on the convention floor. Bon, j'ai pas trouvé de citation de Your Grand Old Flag et Happy Days Are Here Again dans l'improvisation collective, puis c'est assez difficile d'entendre deux groupes de musiciens séparés, comme Hayden dit que ça a été fait. Mais vous vous rappelez qu'on entend l'hymne We Shall Overcome à la toute fin. Puis donc, c'est en fait une double référence qu'on trouve dans cette pièce. Une à cet événement politique référent à la guerre du Vietnam, puis une au mouvement pour les droits civiques avec l'inclusion de We Shall Overcome. Référence entendue dans la pièce dans un brouhaha complet, mais de façon plus solennelle sur la piste suivante. Il me reste un dernier élément musical à aborder concernant la signification de l'album. Il s'agit en fait de fragments d'enregistrement ultérieurs insérés comme arrière-plan à certaines improvisations. On en retrouve dans Los Cuatro Generales, Viva la Quince Brigada et Song Forche. Ça va être plus clair si vous l'entendez. La version originale de la mélodie entendue jouée par le groupe. C'est la deuxième. Thank you. dans son forte. Les deux premières citations sont des fragments provenant d'enregistrements datant directement de la guerre civile espagnole, qui proviennent de l'excellent documentaire de Frédéric Postif intitulé Mourir à Madrid, datant de 1963. Puis l'extrait entendu dans Song Forte est un fragment de la chanson Hasta Siempre du compositeur et chansonnier cubain Carlos Puebla, qui a comme sujet le départ de Che Guevara pour l'Afrique. Par ses citations, Hayden relie de façon encore plus directe sa musique avec sa source d'inspiration, rendant claire l'association entre les deux. Puis donc, elles servent aussi de pont temporel et géographique entre l'Amérique de 1969 du LMO et d'une part l'Espagne des années 30 et l'île de Cuba, laissant sous-entendre des similitudes entre ces lieux et époques. Donc en résumé, si l'album remplit bien sa fonction protestataire, c'est en combinant des références textuelles à un contexte social et politique, soit les chants de la guerre civile espagnole, ainsi que des citations intégrales. Donc on obtient une espèce de collage d'enregistrements et de fragments musicaux connectant ces événements marquants de l'histoire moderne et de l'histoire de l'anarchie, soit la guerre civile espagnole et la révolution cubaine. Puis tout ça combiné avec la force de signification du free jazz dont j'ai parlé. Donc, comment s'est transformée cette esthétique du LMO au fil de ses albums suivants? Tout d'abord, quelques repères chronologiques. Suite au premier album, il fallut attendre 1983, donc 14 ans avant de rentrer dans le LMO. Le groupe fut plus actif entre 1983-1990 avec trois albums, dont un live à Montréal et quelques spectacles dans la région de New York vers la fin des années 80. S'en suivit une autre période de silence radio jusqu'en 2005, année de parution du dernier album du groupe. Dès 1983, le changement le plus remarquable dans l'esthétique du groupe se situe dans l'absence quasi totale d'improvisation collective. Le groupe conserve sa vocation politique, certaines mélodies à couleur hispanique, ainsi que des thèmes à connotation politique, comme « The People United Will Never Be Defeated », mais l'improvisation free ne se retrouve que dans une seule pièce. Il en va de même pour les deux autres albums produits dans les années 80, ainsi que pour l'album de 2005, qui ne contient qu'un passage free dans une pièce d'Ornette Coleman. C'est quand même un minimum que par un peu d'improvisation dans une pièce d'Ornette. Les albums du LMO, excluant le tout premier, se ressemblent beaucoup. On y entend de très bons solistes, des arrangements à complexité variable, mais toujours dans un assez haut niveau. Et toujours les thèmes à saveur politique et la touche hispanique très, très chère à Hayden. Mais on n'y retrouve pas la touche provocatrice de l'album de 1969, à mon avis. Donc, dans ce contexte sonore, que reste-t-il de la signification politique du premier album? Bien peu, si vous voulez, mon avis. J'aimerais illustrer ça par un exemple que j'espère que vous ne trouvez pas trop dur, mais quand le LMO vient jouer à la salle Wilfrid Pelletier ou au théâtre Maisonneuve devant une foule de gens assaisis pour se payer des billets à plus de 50$ pour un spectacle de moins d'une heure, qui joue des pièces très chargées politiquement comme We Shall Overcome, mais qui les joue d'une manière complètement figée, sans originalité, un solo après un autre sur une forme de blues extrêmement traditionnelle, que vient faire le mot Liberation dans le nom de l'ensemble? Ce qui m'amène à parler de l'institutionnalisation du jazz. Donc, cette signification changeante de la musique du LMO au fil du temps est reliée à ce sujet qui me passionne particulièrement. Puis, donc, selon moi, il existe un lien évident entre les processus d'institutionnalisation du jazz en tant que forme artistique, ces processus de canonisation, d'écriture de l'histoire, et donc, entre ça d'une part et les changements observables dans la carrière du LMO. Commençons par la fin. Qu'entend-on par jazz aujourd'hui? Concrètement, quel est le stéréotype d'une pièce de jazz? Généralement, ce qu'on va identifier, ça va être une pièce jouée par un petit ensemble, incluant habituellement un saxophone et une contrebasse, symbole par excellence du genre. Peut-être un chanteur ou une chanteuse, un piano, une batterie discrète et répétitive, jouant tout d'abord une mélodie, un peu bluesy, suivi de solo improvisé joué sur les accords de la dite mélodie. Puis ces solos seront suivis par une reprise de mélodie qui se terminera par un point d'orgue. Voilà en gros à quelle image les publicistes de Chrysler, d'Air Canada et de différents hôtels en ville font référence. Si si l'on veut dépasser un peu ce cliché, on incorporera la musique de Big Band et les fusions avec la musique latine, fusions qui sont probablement la chaîne couleur jazz de Lafayette. Cette vision un peu simpliste du jazz, on la retrouve malheureusement ailleurs que dans nos médias. Pour illustrer cela, il me fait plaisir de vous citer ici mon tout premier professeur de contrebasse qui m'a dit à mon premier cours que le jazz était mort. Aussi étrange que peut apparaître cette approche pédagogique, elle en demeure pas moins symptomatique. Ouais. Elle en demeure pas moins symptomatique des manières dont on enseigne le jazz aujourd'hui dans probablement la majorité des institutions. Si bien sûr plusieurs professeurs ne partagent pas cette vision morbide du jazz, son enseignement en institution est bien rarement axé sur ce qui rend vivante une forme artistique, soit la créativité et l'originalité. On a légitimé la musique de jazz au même niveau que la musique dite classique, ce qui est une excellente chose, chose qui rend ainsi possible un transfert d'argent important vers une catégorie de musiciens de très haut calibre qui n'avaient aucun accès à des emplois stables et rémunérés, ou bien rémunérés, des subventions puis une meilleure exposition. Mais ce faisant, on a négligé de prendre en compte en quoi cela affectait la musique et par le fait même sa signification. Si l'approche pédagogique institutionnelle a un rôle important à jouer dans cette fixité actuelle du jazz, les processus de canonisation et de formation de l'histoire y tiennent aussi un rôle considérable. Certains membres très influents de la communauté du jazz, principalement Wynton Marsalis, trompettiste, pédagogue et surtout directeur du programme de jazz au Lincoln Center à New York, qui est probablement le programme dédié au jazz le plus important aux États-Unis. Donc, Wynton Marsalis et deux très influents critiques, Albert Murray et Stanley Crouch, font la promotion d'une certaine image du jazz. Puis donc, enfin, je parle de ces trois-là parce qu'ils sont les plus visibles, les plus importants, mais c'est symptomatique d'une mentalité très répandue. Donc, surtout Crouch et Marsalis, en fait, ont beaucoup de visibilité parce qu'ils ont fait partie de la production de la série documentaire Jazz de Ken Burns. Qui illustre parfaitement les problèmes dont je veux parler. Bon, vous allez me dire que, évidemment, bon, c'est une histoire du jazz dans à peu près 15 heures de vidéo, puis forcément, c'est restrictif, mais je pense que ça illustre bien quand même la façon de penser que je veux critiquer. Donc, le documentaire présente une progression du jazz très linéaire, très fermée sur elle-même et indépendante des courants musicaux qui se sont pourtant développés conjointement, comme le blues, dans le documentaire, joue uniquement, en fait, est traité juste comme étant un ancêtre du jazz, une musique folklorique très peu évaluée, sans que jamais soit pris en compte toute l'évolution de cette musique, toutes ses interactions avec le jazz, et finalement, le fait que c'est parfaitement arbitraire de se séparer, tu sais, ça c'est du blues, ça c'est du jazz. Puis donc, de plus, cette progression qui part du blues, des field hollers, qui passe ensuite par le Dixieland, le swing, le bebop, puis après ça s'éclate en plusieurs branches, là, le cool jazz, West Coast jazz, third stream, art bop dans les années 50. Donc, cette narration se termine invariablement à ce moment-là de l'histoire, où tous ces différents genres-là, cette espèce d'éclatement du jazz tout d'un coup, est regroupé sous l'étiquette post-bop, et ça s'arrête là. Donc, le jazz fusion des années 70 et 80 est expulsé comme déviation commerciale blanche, malgré le fait que Miles Davis soit un des pionniers du genre. Le free jazz est décrit, et je cite, comme étant « a formless embrace of chaos » ou encore comme « total self-indulgent bullshit ». Donc, si je traduis comme un chaos informe, une merde totalement autosuffisante. Puis donc, qui est donc considéré comme l'avant-garde du jazz dans le documentaire? Eh bien, c'est Wynton Marsalis lui-même. Et d'autres musiciens qui font une musique très, très proche de ce qui s'est fait dans les années 50-60. Donc, selon cette narration, le bebop, puis le post-bop est suivi logiquement du néo-bop, et ça s'arrête là, tout simplement. Cette unification de la tradition qui a comme but avoué de maintenir en vie cette tradition et de l'empêcher d'être submergée par la culture populaire fait donc de l'esthétique bebop l'apogée du jazz. Je vais vous passer cette citation. Donc, cette conception du bebop comme étant le point tournant du jazz, comme étant le moment où les musiciens de jazz prennent conscience de leur valeur en tant qu'artistes. Donc, ils font de cette espèce de révolution bebop le moment où les musiciens de jazz deviennent des artistes modernes, puis entrent dans la modernité artistique. Ça ne tient pas vraiment la route, parce que c'est une manière de concevoir le bebop en étant complètement déconnecté de toute commercialité, ou comme si c'était un rejet total de l'industrie de la musique, ce qui est absolument faux, parce que enfin ils se sont pas mis à composer ça dans les égouts de New York, dans un coin obscur, ils jouaient dans le club, puis c'était une réaction face aux problèmes qu'éprouvaient les big bands à l'époque, donc ils se sont mis à faire des plus petits ensembles, puis bon, c'est ça. Puis dans les faits, c'est surtout le free jazz qui est un moment charnière beaucoup plus important en ce qui concerne la prise de contrôle de la musique comme forme artistique indépendante. Mais puisque le free jazz est difficile d'accès, très peu commercialisable, il est constamment mis de côté pour faire face à une définition du jazz plus conservatrice et donc plus restrictive. On peut donc dire qu'avec cette institutionnalisation croissante du jazz, le free a pris la forme historique de l'anomalie, d'un hermétisme déconnecté de la tradition. Mais poussant en marge, le free puis tout ce qu'il y avait de plus radical et de plus innovateur, si vous voulez, a entraîné dans son sillage une bonne part de la signification politique du jazz, dont l'esthétique se calque maintenant de plus en plus sur des critères provenant de la musique dite sérieuse. Donc formalisme, précision, complexité, virtuosité, puis attachement à un répertoire canonique précis. Ce processus de formation de l'histoire du jazz se reflète évidemment dans l'approche pédagogique du jazz, comme je l'ai mentionné, qui repose à plusieurs niveaux les méthodes d'enseignement classique de la musique. Donc on fait maintenant du solfège jazz, de l'harmonie jazz. Tous apprennent à jouer un répertoire fixe dans un style donné, comme on apprendrait la musique baroque. Ces deux, ce qui est pas mal, c'est très bien aussi, il ne faut pas perdre ça non plus. Donc ces deux processus, soit l'institutionnalisation de la pédagogie du jazz et la formation d'une histoire culturelle trop unifiée, se combinent et finalement surprotègent le jazz au point de l'étouffer. Devant ces constatations, il devient clair que Charlie Eden et le NMO ont suivi cette ligne de parti plutôt que de conserver le côté plus radical de leur premier album, ce qui explique entre autres le fait que la petite maison de disques qui enregistre les premiers balbutiements du free jazz, je parle de la maison Impulse, le LMO est finalement signé avec les titanesques maisons Verve et Blue Notes qui appartiennent à Universal Music Group, qui à son tour appartient à la multinationale française Vivendi. Donnée qui peut paraître superflue, mais qui illustre néanmoins qu'on ne parle pas du tout d'une petite maison de disques indépendante. Les albums post-1990 du LMO, loin de le contester quoi que ce soit, se fondent dans cette esthétique néo-bop, ce qui n'est pas un problème en soi, mais qui joue quand même pas mal avec les visées révolutionnaires et altermondialistes prônées par le groupe. Avant de terminer, je tiens tout de même à préciser que je ne crois pas que le free jazz est le monopole de la créativité, loin de là, et qu'il existe bien sûr de nombreux artistes de jazz contemporains qui parviennent à dépasser cette sorte de vision réactionnaire que j'ai présentée comme dominante. Je pense néanmoins que de nos jours, beaucoup trop de musiciens oublient que le jazz, dans ce qu'il y a de meilleur, est une avant-garde perpétuelle. Puis, l'exemple du Liberation Orchestra me semble bien refléter ces changements dans la façon de concevoir le jazz des dernières décennies. Et j'espère ne pas avoir trop passé pour une grande nostalgique. J'attends vos questions.